Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. De nouvelles mesures en France contre le coronavirus après les deux cas recensés dans l'Oise, dont un mortel. Tous les malades atteints de cette pneumonie seront désormais testés. Le gouvernement et les autorités sanitaires peaufinent un plan d'action global. Réunion aujourd'hui à Matignon, alors que tous les salariés qui reviennent des zones sensibles en Italie ou en Chine, ceux encore qui doivent garder leurs enfants à la maison, seront indemnisés sans délai de carence. Explication dans un instant.
L'épidémie ne suscite pas seulement l'inquiétude du monde médical et des autorités, les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent de multiples violations en Chine.
À la une encore, le Premier ministre indien Narendra Modi qui appelle au calme face aux violences intercommunautaires qui ont fait 27 morts à New Delhi, l'un des pires embrasements de la capitale indienne depuis des décennies. Nous serons sur place dans un instant. La principale filiale crédit de BNP Paribas, lourdement condamnée pour avoir fait le choix de ne pas informer le consommateur et dissimuler les risques induits par ces prêts toxiques en France-Suisse, Helvet Immo, au détriment de plus de 4600 emprunteurs. Audience hier, France Culture y était.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, un super fail, un super échec, vous savez qu'on les aime. Ici, pourquoi l'armée française a-t-elle tardé à s'équiper de drones? On posera la question à un maître de conférence à Sciences Po Saint-Germain, Samuel Faure.
La Chine recense ce matin 433 nouvelles contaminations au coronavirus et 29 décès supplémentaires, toujours trop pour les autorités sanitaires, mais elle note malgré tout une amélioration, car il s'agit du nombre de décès quotidiens le plus faible depuis fin janvier. Depuis hier, et c'est une première encore, les nouvelles contaminations en Chine continentale sont même inférieures à celles enregistrées dans le reste du monde. Mais à quel prix? Avec des millions de Chinois placés en quarantaine, Pékin fait tout pour contenir l'épidémie et étouffer au passage les voix dissidentes, Marie-Pierre Véraud.
Il y a bien sûr la mise au secret de journalistes tentant de documenter la situation à Wuhan, les centaines d'arrestations arbitraires de personnes accusées de propager des rumeurs alors qu'elles critiquent juste la gestion de l'épidémie par les autorités chinoises, ou encore le doute persistant sur la fiabilité des chiffres officiels de contamination. Mais les défenseurs des droits de l'homme s'inquiètent aussi des effets de la quarantaine. Yat-Che Wang de Human Rights Watch.
Il y a par exemple cet homme qui avait des problèmes de reins et était en dialyse. L'hôpital dans lequel il était soigné a soudain été réquisitionné pour traiter uniquement les cas de coronavirus. Il a dû partir et n'a pu trouver de traitement ailleurs et il en est mort. On a beaucoup d'exemples comme celui-ci. Beaucoup de gens parlent de leur oncle, leur mère, leur sœur, surtout les personnes âgées. Tous ces gens souffrent à cause de la quarantaine.
Yat-Che Wang a recueilli de nombreux témoignages de personnes qui attendent des soins mais dont le quartier est bouclé et que les infirmiers ne peuvent atteindre, ou d'autres qui ne peuvent se rendre à l'hôpital car il n'y a plus de transport en raison de la quarantaine. Autant de victimes du coronavirus qui n'apparaissent pas dans les statistiques officielles.
Le nouveau coronavirus qui a tué plus de 2700 personnes dans le monde, près de 80 000 contaminés au total, 2800 cas environ recensés en dehors de la Chine continentale, derniers en date au Brésil, au Pakistan, en Norvège, en Grèce, en Roumanie et en Algérie. Arrêtons-nous donc sur la situation en France où le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé hier soir un 18e cas positif, l'épouse d'un patient hospitalisé à Annecy, un Français de 64 ans, de retour de Lombardie. La France, où jusqu'à présent, tous les cas de coronavirus s'expliquaient. La contamination venait donc d'Italie, de Chine, d'un contact avec une personne contaminée bien identifiée. Mais c'est un fait inédit. Depuis le début de la crise, deux cas restent ce matin sans traçabilité. Aucun lien n'a pu être établi entre ce professeur de collège de 60 ans, décédé brutalement dans la nuit de mardi à mercredi, et un agent civil de la Défense, toujours hospitalisé dans un état grave à Amiens. Leur seul point commun, la ville de Creil, dans l'Oise, est le fait de ne pas avoir été considéré dès le départ comme une suspicion de coronavirus. Il faut donc remonter leur emploi du temps et trouver avec qui ils ont été en contact prolongé. Or, sans traçabilité à ce jour, comment espérer contenir le virus et sa propagation? Hier, les autorités sont restées vagues mais confiantes, Véronique Julia.
Au ministère de la Santé, hier soir, le message est resté le même que les jours précédents. Il n'y a pas d'épidémie en France, explique le ministre Olivier Véran. Le virus ne circule pas et la traçabilité est parfaite.
Nous faisons toujours face à des cas que l'on sait expliquer par un voyage ou par un contact avec une personne qui a été elle-même contaminée.
Une certitude pourtant compromise par ces deux cas survenus dans l'Oise et pour lesquels, pour l'instant, on ne trouve pas d'explication. La ville de Creil semble point commun des deux hommes qui, l'un comme l'autre, n'avaient pas voyagé et ne revenaient pas d'une zone à risque. Se connaissaient Se sont-ils croisés? Ont-ils tous les deux côtoyé une même personne qui les aurait contaminés? Une enquête est en cours pour retracer le parcours de chacun, mais déjà ces deux cas prouvent une chose. On ne peut plus se contenter aujourd'hui de limiter les suspicions au seul fait que quelqu'un revienne d'une zone à risque ou qu'il fasse partie des contacts d'une personne contaminée. Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a expliqué hier soir que la définition d'un cas suspect serait désormais plus large.
Nous avons décidé en France de tester toute pneumonie grave, toute détresse respiratoire, même s'il n'y avait pas de voyage, même s'il n'y avait pas de notion de contact avec un cas confirmé.
Une stratégie qui cible donc uniquement les cas sévères. On peut par conséquent passer à côté de certains profils peu symptomatiques ou sans gravité apparente. Mais comment faire? Le ministère le reconnaît d'ailleurs. Ses efforts visent à freiner la propagation du virus. Il ne prétend pas pouvoir la stopper.
Point sur la situation aujourd'hui à Matignon. Le Premier ministre Édouard Philippe réunit les chefs de parti représentés au Parlement, les présidents de groupes parlementaires et des assemblées. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a expliqué hier que les personnes placées en isolement pour éviter tout risque de propagation de ce nouveau coronavirus bénéficient d'un arrêt de travail et d'indemnités journalières pouvant aller jusqu'à 20 jours, indemnités versées par l'assurance maladie sans délai de carence, mesure applicable également aux parents qui ne peuvent pas aller travailler pour rester avec leur enfant. Quelle est la marche à suivre pour les salariés? Les explications d'Anne-Laure Jumet.
Les employeurs ont l'obligation de protéger leurs salariés et doivent donc prendre des mesures en ce sens. Mais pour Éric Rocheblave, avocat en droit social et en droit de la sécurité sociale, ce n'est pas à eux de juger du caractère contagieux des salariés. Les entreprises doivent s'en remettre à leur médecin du travail.
L'employeur interroge le médecin du travail. Le médecin du travail donne ses préconisations et sur la base des préconisations du médecin du travail, l'employeur peut prendre des mesures en concertation éventuellement avec les représentants du personnel pour déterminer effectivement qu'est-ce qui est plus judicieux, mettre à disposition éventuellement des masques, positionner des jours de RTT, positionner des jours de congé, mais ensuite des interdictions de travailler avec dispense de rémunération. Je pense qu'on n'en est pas là et le payer à rien faire peut être jugé fautif de la part d'un employeur dans d'autres situations.
L'entreprise peut aussi mettre en place du télétravail si le poste s'y prête, bien sûr. La décision de maintien à domicile relève, elle, des autorités médicales et plus spécifiquement du médecin de l'agence régionale de santé.
Les salariés qui seraient mis en quarantaine ont droit sans condition à des indemnités journalières pendant 20 jours. Mais c'est bien le médecin de l'agence régionale de santé, qui est désigné par le directeur général de l'agence, qui délivre les avis d'interruption de travail et les transmet notamment à l'employeur.
Cette règle est récente puisqu'elle s'applique depuis le 1er février dernier et elle est pour l'instant édictée pour une durée de 2 mois.
Conséquence encore du coronavirus en France, le dernier jour du carnaval de Nice qui devait s'achever samedi a été annulé à titre préventif. C'est ce qu'a annoncé hier le maire Christian Estrosi. Annulation également de la fin de la fête du citron à Menton. Menton, dernière ville avant la frontière avec l'Italie. Le coronavirus qui se propage à travers le monde. Aux États-Unis, Donald Trump dit se tenir prêt. Les États-Unis et la Corée du Sud ont d'ailleurs reporté aujourd'hui des exercices militaires en raison de l'épidémie de coronavirus dans ce pays d'Asie qui a enregistré 330 cas, nouveaux cas aujourd'hui. La Corée du Sud, qui est le foyer de contagion le plus important hors de Chine continentale. Et puis l'Arabie Saoudite a suspendu de son côté l'entrée sur son territoire des pèlerins se rendant à la Mecque.
7h09 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Le Premier ministre indien Narendra Modi appelle au calme face à des violences intercommunautaires qui ont fait 27 morts à New Delhi.
Des hindous armés de sabres, de bâtons, parfois de pistolets qui chassent des musulmans dans les rues de la capitale indienne. C'est l'un des pires embrasements depuis des décennies. Le nationaliste Narendra Modi est accusé d'avoir mis le feu aux poudres intercommunautaires avec des policiers empêchant parfois des musulmans d'accéder aux hôpitaux. Un officier des services de renseignement a été tué, indique le Times of India ce matin, alors que ces mêmes services de renseignement avaient été alertés depuis dimanche d'un risque d'embrasement. Elles n'ont rien fait, indique le quotidien indien. Reportage sur ces violences à New Delhi avec Sébastien Farcy.
L'hôpital Gorout Tej Bahadur se situe à quelques kilomètres de Jafarabad, l'épicentre des affrontements religieux du nord-est de New Delhi. En 3 jours, l'hôpital a reçu plus de 200 victimes, dont 25 sont décédées. L'un de ces défunts est Mehtab, un jeune musulman de 22 ans. Devant la morgue de l'hôpital, sa sœur Shera Begum nous montre son portrait, inconsolable.
Mon jeune frère venait de sortir de la maison pour acheter du lait mardi soir. Quand 4 ou 5 personnes l'ont frappé avec une arme pointue au front et l'ont brûlé vif. Qu'est-ce qu'ils vous avaient fait, dites-moi? À quoi cela vous sert de tuer ces gens? L'Inde est notre pays et nous voulons vivre en paix.
La police a annoncé que 106 personnes avaient été arrêtées et 18 plaintes enregistrées pendant ces violences. Mais la cour d'appel de Delhi l'a réprimandée pour ne pas avoir poursuivi les 3 politiciens du parti nationaliste hindou au pouvoir qui ont incité les foules à prendre les armes ces derniers jours. Cette formation du Premier ministre n'a quant à elle pas sanctionné ses membres incendiaires, dont l'un est un secrétaire d'État dans le gouvernement.
La principale filiale crédit de BNP Paribas lourde condamné hier pour avoir fait le choix de ne pas informer le consommateur et dissimuler les risques induits par ses prêts toxiques en France-Suisse. C'est l'affaire dite Helvet Immo, ce prêt qui a endetté à vie près de 4 600 emprunteurs. Audience hier à Paris, suivie par Anne Lorchouin.
Ils ne sont pas tous sortis d'affaires, les victimes de ce prêt Helvet Immo, mais à l'énoncé du jugement hier, c'est le soulagement qui se lisait sur les visages des dizaines d'emprunteurs floués venus au tribunal. Laurent, l'un de ces emprunteurs.
En 2009, j'ai emprunté 224 000 euros. Aujourd'hui, je dois encore 240 000, c'est-à-dire plus que ce que j'ai emprunté au début. Pour un bien qui est estimé à 70 000 euros aujourd'hui. Donc il vaut rien. Je me suis dit que... Enfin, il y avait une justice sur le territoire français, parce que bon, ça fait quand même maintenant plus de 10 ans que nous, on attend qu'on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais honnêtement, aujourd'hui, je suis satisfait quand même, parce que bon, on a vu qu'il y avait une justice.
Ceux qui ont fait racheter leur prêt seront dédommagés un peu mieux que ceux dont le prêt court toujours. Mais les arguments portés par leurs avocats ont été suivis en tout point par le tribunal, à savoir que la BNP avait sciemment élaboré un produit faisant courir un risque de change aux emprunteurs, qu'elle l'avait sciemment dissimulé dans les argumentaires transmis aux intermédiaires et qu'elle avait sciemment fait passer un taux d'emprunt en réalité variable pour un taux d'emprunt stable et fixe. Pour maître Constantin Vallée, c'est une victoire pour les consommateurs et un avertissement pour les banques.
Une telle condamnation est de nature à avertir tous les professionnels que désormais, ils ne pourront plus, par des petites lignes, par des stratagèmes, eh bien, tromper les consommateurs et les placer dans de telles situations telles que celles que l'on voit pour ces victimes.
La BNP n'a pas précisé si elle ferait appel. D'autres procédures sont en cours pour cette même affaire devant la Cour de justice européenne.
Le temps de ce jeudi 27 février marqué par une vigilance orange pour neige et verglas dans 10 départements du nord-est de la France. Au meilleur de la journée, il fera entre 4 et 9 degrés des frontières du nord jusqu'aux Alpes, 10 à 16 partout ailleurs.